Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dahl.
On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. C'est un verset tiré de l'évangile de Saint-Luc. Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous allons parler de charité de proximité avec la JAR de Sarepta, cette jeune association portée et soutenue par trois paroisses du diocèse de Versailles et qui fait des merveilles, il faut le dire, auprès de familles touchées financièrement et moralement par un veuvage, une maladie ou un handicap. Pour en venir en parler, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le fondateur de l'association, Cyril de Taillac. Bonjour.
Bonjour Maxime, bonjour à tous les auditeurs.
Ainsi qu'Alexis Gallet, membre actif de l'association. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Cyril de Taillac, peut-être un mot pour débuter cette émission. Comment se porte votre association ?
Déjà, merci de nous recevoir. L'association La JAR de Sarepta donne beaucoup de fruits et nous en sommes émerveillés, puisque aujourd'hui, nous soutenons une quinzaine de familles. Et surtout, ce qui nous émerveille, c'est de voir des familles qui, finalement, dans la détresse, acceptent une aide temporaire pour repartir, rebondir vers d'autres cieux. Et ça, c'est merveilleux, d'autres cieux positifs, bien entendu.
Parce que c'est vrai qu'il s'agit, comme vous le dites, d'aider ces familles-là, mais ce n'est pas forcément facile aussi de demander de l'aide.
Ça n'est jamais facile de demander de l'aide, ça n'est jamais facile de donner, même s'il est plus facile de donner que de recevoir. Je pense que là, l'émerveillement vient aussi du rapprochement qu'il y a entre ces donateurs qui veulent absolument soutenir une famille proche d'elle, sans savoir comment faire, et ces familles qui ne souhaitent pas être aidées, mais qui ont un tel besoin d'aide.
Alors peut-être, Cyril de Taillac, revenir aussi sur le nom de l'association. C'est un peu de coutume dans Ecclésia Magazine, quand on présente des associations, des mouvements, d'évoquer bien sûr l'étymologie, le sens du moins de cette association, la JAR de Sarepta. Pourquoi ce nom ?
Cela vient de l'Ancien Testament. Oui. Élie appelé par notre Seigneur à visiter une veuve de Sarepta qui est prête à mourir avec son fils et la demande lui est faite de préparer, on va dire, le dernier repas qu'elle peut produire et de permettre à Élie donc de prendre un repas avant de mourir. Et Élie lui promet que si elle réalise cette demande, cruche jamais ne se videra. Et donc, elle sera sauvée.
Elle sera sauvée. Alexis Gallet, peut-être, vous êtes membre actif de l'association depuis le début, depuis sa fondation ?
Non, pas depuis le début. Cyril m'a appelé, on peut dire, oui. À faire partie de la JAR de Sarepta, probablement au bout de 6 mois. Non, au bout d'un an, parce qu'il avait... en fait, il y avait la première famille que nous avons aidée. En fait, j'avais essayé de changer ses idées. Parce que l'aide qu'on apporte, c'est une occasion de le dire, c'est effectivement financier, comme vous l'avez dit, mais ça peut être aussi de l'écoute et puis ça peut être une charité fraternelle. Et donc là, je les avais emmenés en vacances. Voilà. Et donc, suite à cette idée que j'avais eue de les emmener en vacances pendant quelques jours, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis un an, après le décès du papa, eh bien, Cyril m'a demandé de faire partie de l'association.
Alors c'est vrai que quand on parle de charité, de solidarité, on pense souvent à aller, on va dire, servir un petit peu aux quatre coins du monde, que ce soit en Inde, en Amérique du Sud ou ailleurs. Mais c'est vrai que parfois on oublie peut-être que la charité doit s'exercer avant tout autour de nous, autour de nos proches, Cyril de Taillac.
Je crois que c'est peut-être l'essence même de cette association, c'est d'abord penser à une charité de proximité, car je crois que tous nous avons cette expérience de savoir qu'un voisin proche de nous, mais qu'on ne connaît pas forcément, il lui arrive quelque chose de dramatique, sans savoir pouvoir l'aider, comment l'aider, et peut-être avec la volonté de dire oui, mais je ne le connais pas, pour autant il est tout à côté de moi. Et cette pensée est peut-être devenue presque une obsession pour nous, à la suite du pape aussi, puisque nous avons quand même un pape François qui nous pousse à aller vers l'autre, à évangéliser, à donner ce que l'on a reçu. Et je pense même que ça va plus loin, puisque cette année miséricorde que l'on vient de clôturer nous envoie en mission, et à la suite, j'allais dire, de notre évêque, de tous les évêques, mais de notre évêque, Monseigneur Aumônier, je pense qu'on est à un moment où l'envol, ce moment où on ferme les portes, c'est un moment où, au contraire, on ouvre toutes les autres. Et une œuvre de miséricorde, en toute simplicité, j'avoue, parce qu'on est tout petit, comme la jarre de Sarepta, est un moyen d'envol de ces familles. Et une autre image, c'est que je pense que, finalement, quand on ferme une porte, c'est aussi permettre à une famille qui a été aidée dans la détresse, eh bien, de reprendre son envol. Donc, vous voyez, il y a une double image que j'aime beaucoup.
Quand vous avez fondé la jarre de Sarepta, quelle a été votre motivation première? C'est en voyant justement le manque de moyens, peut-être, pour mettre en place une charité de proximité entre paroissiens, entre amis parfois, et que les choses n'étaient pas assez simples, peut-être, pour favoriser cette aide?
Je pense que la première intuition vient de ce malaise ressenti autour de cette famille, de cette première famille qui a vécu ce drame, avec la volonté de dire on ne peut pas en rester là, on doit agir pour permettre à cette famille de se relever.
Juste peut-être un mot sur cette histoire, justement, c'était une famille dont le mari et père donc est mort.
C'est bien et, ça. Est décédé brutalement en laissant son épouse et 6 enfants. Sans aucune ressource au départ. Et au-delà de la prière que nous pouvions apporter, nous pouvions donner la volonté de les aider matériellement, avec la demande, bien sûr, de la famille. Car, en tout état de cause, il est très important pour nous de toujours trouver un relais très proche de la famille pour éviter de... j'allais dire être trop présent ou avec un manque de délicatesse qui serait mal perçu et de toute façon mal vécu.
Alexis Gallet, c'est vous avec l'association qui allez voir un petit peu les familles que vous sentez en détresse ou parce qu'on vous avez entendu parler de certains peut-être proches de la famille en question qui vous ont sollicité pour aller aider la famille ou parfois même les familles viennent vous voir, vous?
Alors, il est très rare, tout à l'heure on disait c'est difficile de demander, c'est difficile de recevoir. Il est très très rare en fait qu'il y ait une famille qui nous sollicite directement. Oui. En général, c'est plutôt quelqu'un de proche, de l'environnement proche, qui connaît le drame et qui à ce moment-là nous contacte. Et je rebondis juste sur ce que vient de dire Cyril, faut pas penser que la jarre de Sarepta est une initiative unique. Savoir qu'on connaît déjà on a 2 cas déjà au moins où en fait il y avait eu un drame, un père qui était décédé, dans un autre cas c'est un couple qui se sépare, on en parlera peut-être tout à l'heure, et en fait localement les amis se sont réunis en disant on a besoin d'aider financièrement. Et nous à ce moment-là on apporte une structure, on apporte une organisation et puis une méthode. Et alors sur la méthode, c'est relativement, c'est en fait très important, c'est idiot à dire, mais c'est très important. Donc il y a des principes, le fait d'avoir un relais local. Donc nous, on a besoin de connaître les gens, de connaître leur situation. Ensuite, on les rencontre. On rencontre toujours les gens, soit par l'intermédiaire du relais, soit un des membres se dévoue, va les rencontrer et on parle avec eux de manière assez régulière, au moins 2-3 fois par an.
Il y a une espèce d'étude de dossier, si je puis dire, ou comment ça se... pour voir si... c'est peut-être un peu rude, ça en vaut la peine ou pas.
Pour pouvoir prendre une décision et discerner autour d'un projet de soutien, il faut forcément, à un moment donné, évaluer le besoin, en toute délicatesse, mais avec des éléments qui sont précis. Donc pour cela, on s'appuie sur ce relais qu'a évoqué Alexis. On s'appuie aussi sur la famille, car il est de notre côté hors des questions de forcer une famille à recevoir une aide. Donc cette évaluation, elle se fait en douceur, sur la base souvent d'une aide même, car la famille qui vit un drame, quel qu'il soit, on a parlé de veuvage, mais il y a le drame d'un long chômage ou le drame de la séparation qui peut bouleverser. Ces familles ont beaucoup de mal à savoir ce qu'est un budget. Comment établir une gestion saine de sa trésorerie. Donc, vous voyez, on a parlé d'aide spirituelle, on a parlé d'aide matérielle, mais on est aussi dans l'accompagnement de comment définir ce besoin.
Et puis c'est vrai une aide aussi du quotidien finalement, c'est qu'on aurait tendance à dire il faut effectivement prier, c'est important d'une certaine manière bien évidemment, mais c'est vrai que l'aide au quotidien, donc ça passe par une aide financière et matérielle, c'est aussi indispensable pour que chacun puisse sortir un petit peu la tête de l'eau, Alexis Gallet.
Oui, tout à fait, on a deux types d'aide. Alors quand une famille a des difficultés en termes d'argent, ce dont elle a besoin, c'est du récurrent. C'est quelque chose qui arrive tous les mois. Et donc, en général, on s'engage des périodes typiquement de 1 an. Et tous les mois, il y a un virement qui arrive de la jarre de Sarepta. Donc ça donne une sécurité, une visibilité. À la famille, c'est très important. Et puis parfois, ça peut arriver aussi qu'on donne une aide ponctuelle. Alors là, c'est plutôt un investissement. On a eu le cas d'une chaudière. Et il y avait une maison qui avait été achetée, mais il n'y avait pas de chauffage. Et donc, on a permis que le chauffage soit installé et que la famille, donc il n'y avait plus de papa, mais que la famille puisse se réunir, la mère avec ses enfants, dans cette nouvelle maison. Voilà, donc c'est très, très basique. Hein. Oui. Mais voilà le type d'aide qu'on a pu apporter. Puis il y a d'autres choses qu'on peut essayer de faire. Cyril a parlé du budget. Parfois, on aide quand les gens sont perdus sur des choix, par exemple l'orientation scolaire. Une des choses sur lesquelles parfois on apporte. Là, c'est la mobilisation du réseau de tous les gens de la JAR. Mmh. On aide les enfants dans leur orientation scolaire, dans des familles qui sont paumées, quoi, pour le dire.
Le réseau de la JAR de Sarepta, justement, ça concerne combien de personnes, combien de membres dans votre association, Cyril de Taillac?
Je pense que si on parle des bienfaiteurs, on parle d'une... d'une base de données de 300 personnes. Oui. Mais je dirais que j'ose espérer que la base de communion spirituelle, elle est beaucoup plus importante. Mmh. Et je crois que c'est ça qui fait peut-être la force et qui donne le fruit attendu. C'est que c'est le bouche à oreille que l'on entend dans les paroisses, c'est les campagnes de carême, ce sont les échanges qu'il peut y avoir autour d'une famille. Tiens, j'ai entendu parler de cette famille, ça a l'air d'aller mal. Est-ce que vous croyez qu'on peut les aider? Et ces propos ne viennent pas forcément de donateurs. Donc, je le vois, le fruit est beaucoup plus important que simplement ces 300 donateurs.
Et en même temps, vous souhaitez que cette association reste cantonnée à la proximité. Et pourquoi pas d'ailleurs donner des idées à d'autres et faire des émules ailleurs.
Alors, il est très important de considérer qu'on ne peut agir que là où on est présent. En tout cas, notre vocation est d'être local. Cette charité de proximité n'a de sens que parce qu'effectivement, on s'adresse à des familles qui sont proches de nous ou proches de nous, ou proches de chez nous. Maintenant, on voit bien que cette association donne du fruit et on ne voudrait pas... on voudrait encourager d'autres qui ont eu cette intuition de vouloir aider et s'ouvrir à une charité de proximité. On voudrait peut-être encourager d'autres à le faire. Et transmettre cette méthode, comme disait Alexis, cette structure d'organisation qui prouve au jour le jour son fonctionnement.
Alors on a parlé effectivement, peut-être Alexis Gallet, vous vouliez rajouter un mot.
Je voulais vous raconter une anecdote qui est, les voies de la Providence sont parfois très surprenantes. Il se trouve que j'ai raconté à Cyril, je travaille à Singapour avec un partenaire où ce sont des Chinois qui sont... ils ne sont pas catholiques, ils sont protestants, mais chrétiens, très engagés dans leur paroisse. Et en fait, ils m'ont fait part cet été de leurs soucis, de leur souhait d'essayer d'engager un projet pour aider des gens en difficulté. Et c'est assez fabuleux parce que je leur ai donné les principes de fonctionnement de la JAR. Donc le relais local, le suivi des gens avec une connaissance, toujours par deux membres. Ça, c'est quelque chose qui est important chez nous. Parce qu'un seul membre peut perdre un peu son discernement. Donc c'est important d'être à deux. Et puis en plus, on se soutient, parce qu'on est quand même face à des situations très difficiles. Et puis des règles de vote, dont on reviendra peut-être dessus. Donc je lui ai donné ces règles de fonctionnement basiques. Il m'a dit, c'est super. Et je suis retourné fin octobre, et je lui ai demandé, et il m'a dit, ça y est, c'est en place. On a démarré. Donc voilà, donc la JAR de Sarepta a une petite sœur.
Donc il y a une JAR de Sarepta à Singapour.
À Singapour, voilà.
Donc anecdote, un peu croustillante, c'est vrai. Comme quoi Cyril de Taillac, voilà, c'est vrai que c'est une idée qui peut faire des émules et qui et c'est vrai que des gens qui souhaiteraient mettre en place une charité de proximité parfois tâtonnent un petit peu, ne savent pas comment faire cela. J'aimerais peut-être revenir sur l'aspect un peu technique aussi qu'évoquait Alexis Gallet. Quand vous recevez divers dossiers, quand on vous parle de telle ou telle famille, comment cela se passe quand il s'agit de dire oui, bon, on va s'en occuper, on va mettre un budget en place, etc. Il y a un vote justement entre vous.
Je pense que ça, c'est le principe de tout fonctionnement d'une association. Il y a une évaluation qui est faite par les deux membres qu'évoquait Alexis, donc deux membres qui n'ont pas forcément de lien avec cette famille, qui vont la rencontrer le relais, établir le besoin et le présenter aux autres membres. Ça peut être dans le cadre d'un conseil où on se réunit, mais aussi en conférence téléphonique. Ça va vous paraître très particulier, mais on se connaît maintenant tellement bien après 4 ans de fonctionnement qu'on est capable d'échanger sur un projet très rapidement et ça nous permet d'être en action, d'être en mouvement par rapport à ces familles. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est d'être là où on nous attend et au bon moment.
Aujourd'hui, combien de familles qui bénéficient, si je puis dire, de l'aide de la gare de Sarepta ?
Oui, une petite quinzaine, avec peut-être une particularité sur les dernières familles qui sont arrivées auprès de nous. Des drames qui ne sont ni le veuvage, ni le chômage, ni la maladie, mais de graves séparations qui plongent le reste de la famille dans une très grande détresse. Mmh. Et ça a été pour nous aussi quelque chose de difficile, humainement, mais aussi spirituellement, car vous vous dites qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas nous arriver à nous, déjà, et puis qu'est-ce qui fait qu'on peut, avec notre faible expérience, soutenir ces familles. Donc il y a déjà un apprentissage, une discrétion sur comment comprendre votre situation, comment évaluer votre situation et aider là où on le peut, bien sûr tout en respectant la loi, tout en respectant les contraintes judiciaires.
Alexis Gallet, peut-être un mot justement sur ces familles, ces dernières familles dont vous chargez un petit peu de l'aide et qui ne sont plus forcément dans le cadre du veuvage, etc. Où là, c'est vrai, on est dans un cadre peut-être plus délicat, plus compliqué encore.
Eh bien, je pense que ça a été un exercice d'humilité, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'au début, c'était très difficile. J'étais incapable de savoir, de discerner s'il fallait faire ou comment il fallait faire. Oui. Ça a été très difficile. Et il m'a fallu 6 mois. Voilà. Je suis très honnête. Il m'a fallu 6 mois pour me dire, allons-y. Allez, engageons-nous, reprenons le bâton et engageons-nous. Et donc ça y est, maintenant c'est parti, je le vois, je sens, mais ça a été, c'était très difficile. Oui. En plus, on se dit que c'est une plaie qui est ouverte et on ne sait pas comment elle va pouvoir être fermée. Alors que le veuvage, on voit des familles déjà qui s'en sortent, qui repartent, qui remontent.
C'est ça, parce que par exemple, dans le cas d'une séparation, que ce soit l'épouse ou l'époux, ont besoin d'une aide, en plus d'une aide financière peut-être, mais aussi une aide morale, d'un discernement, une aide spirituelle. Et est-ce que là, c'est justement, il n'y a pas une petite frontière peut-être qui s'établit avec ce que vous proposez ?
Je pense que l'expression d'Alexis est tout à fait la bonne. On parle d'une plaie ouverte. Quand il s'agit d'un deuil, et on le connaît aussi professionnellement, on a tous peut-être plus ou moins vécu un deuil professionnel, il y a une forme de pente qu'il faut accepter de prendre avec différentes phases. Dans le coaching, on les voit très très bien, ces phases. Là, on est dans une plaie ouverte où on a besoin d'accompagner tout en respectant le cheminement des uns et des autres. Et quand on parle de besoin d'éducation, on est en revanche dans le même choix de départ. Moi, parent, je souhaite que mes enfants puissent suivre le chemin qui a été tracé au départ sans l'abandonner. Mmh. Et donc, c'est ce qui nous, j'allais employer un terme anglais, c'est ce qui nous drive en premier. Après, il y a ce souci de délicatesse et de discrétion, car la plaie est ouverte. La plaie est ouverte. Et quel droit a une association, finalement, d'appuyer un peu plus sur cette plaie, alors qu'on voudrait plutôt l'aider à se refermer.
Et justement, dans ces conditions, quelle est votre action sur le plan humain et spirituel? Peut-être vous mettez plutôt en retrait en essayant justement de vous circonscrire à une aide financière, un petit peu morale aussi. Comment vous...
Il y a beaucoup d'écoute d'abord. Ouais. Beaucoup d'écoute, car la situation change à peu près chaque jour. Parce qu'il y a une action judiciaire, parce qu'il y a eu une rencontre entre l'un des deux et les enfants, parce qu'une occasion de chute se présente. Enfin, voilà, il y a d'abord une écoute. Je crois que dans cette écoute, il y a une façon de confier à l'Esprit Saint l'écoute et la façon dont on va pouvoir parler à cette famille. Je prends l'exemple de cette famille que nous avons reçue avec Alexis le week-end dernier. Nous avons vu une femme merveilleuse qui pense d'abord à la solidité de ses enfants et qui se réjouit de voir comment ses enfants, entre guillemets, s'en sortent ou du moins avancent, sont en mouvement. Et ça, c'est beau. Après, on en vient à des éléments matériels. Et là, effectivement, c'est plus facile pour nous. Mais je crois qu'on apprend pas à pas aussi à discerner sur comment protéger les uns et les autres par rapport à une situation donnée, quelles actions à mener vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis d'une aide judiciaire ou autre. Et ça aussi, on l'apprend petit à petit.
Alexis Gallet.
Oui, je voulais, ça me permet de rebondir sur une chose qui n'est peut-être pas forcément évidente. C'est qu'on a découvert par une famille qu'on aide, c'est qu'en fait, ces familles qu'on aide nous donnent beaucoup. Mmh. Alors, c'est une dame qu'on a rencontrée qui nous a dit que c'était très difficile de recevoir une aide, mais qu'un prêtre lui avait dit, mais en acceptant cette aide, vous aidez les bienfaiteurs de la JAR à exercer leur charité. Donc, vous leur rendez, vous leur donnez en fait beaucoup. Et ça a été une grande révélation. Découverte, une grande révélation pour nous. C'est quelque chose maintenant, c'est un message qu'on fait passer à toutes les familles qu'on aide en leur disant, mais vous nous aidez en acceptant notre charité. Et là, dans le cas de la famille que décrit Cyril, je pense que c'était l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint est là, on le sent et on est rempli, quoi. Donc on reçoit également beaucoup, beaucoup, même si on aborde des situations très difficiles.
Une autre anecdote serait cette autre famille qui, au sein d'une communauté, sait qu'elle peut être aidée par quiconque la salue à la sortie de la messe et se dit, je me dois d'un sourire, je me dois d'un merci, même si je ne le prononce pas. Et je trouve ça merveilleux parce que ça me pousse à être moi-même charitable avec l'ensemble des personnes que je côtoie dans cette communauté.
Mmh. C'est vrai que, comme vous le dites, et comme Alexis Gallet le précisait, c'est que finalement, la JAR de Sarepta, pour vous qui en êtes membre et fondateur, c'est finalement plus qu'une expérience, je dirais, de mécénat et d'humanitaire. On est dans une expérience spirituelle.
Ah, je serais un menteur si je disais le contraire. Et je crois même que ça doit nous pousser chaque jour à une forme d'évangélisation. On ne doit pas s'arrêter là. D'où cette volonté peut-être d'aller plus loin, peut-être pas à notre niveau, mais en tout cas permettre à d'autres petites associations ou grandes de reprendre le type d'aide que l'on fournit.
Est-ce que vous souhaiteriez peut-être à terme d'étoffer un petit peu votre association avec, par exemple, et c'est peut-être déjà le cas, une aide spirituelle d'un prêtre, de plusieurs médiateurs aussi, d'aller sur cette pente-là ou vous voulez vous circonscrire?
Alors, l'aide spirituelle, elle existe déjà, car une des intuitions que nous avions au départ était de dire, si nous parlons de charité et de discernement, on a besoin nous-mêmes, dans la prière, d'apprendre à discerner. Et nous avons la chance d'avoir un accompagnement spirituel avec, par exemple, une récollection annuelle que nous allons réaliser au début du mois de décembre. Et je pense que c'est très important. L'aspect spirituel nous nourrit et doit nous permettre de nourrir notre discernement. Au-delà de ça, nous nous apercevons que notre faiblesse, notre humilité, en toute humilité, on a besoin de se former sur un certain nombre d'aspects. Et donc, on s'entoure de plus en plus, on va dire, d'experts. Mmh. Ce sont des experts en droit des familles, ce sont des experts en accompagnement des familles. Je pense à des médiateurs familiaux, je pense à des psychologues qui sont capables de nous aider à comprendre des situations particulières, éviter des écueils dans notre communication, manquer de délicatesse. Donc voilà, je crois que pas à pas, tout en restant à taille humaine, nous sommes à même de comprendre et de mieux aider ceux qui nous entourent.
C'est ça, parce que Alexis Gallet, finalement, c'est une formation aussi pour vous-même au quotidien, cette aventure.
Ah oui, ça a été une grande formation. Alors, elle joue à un niveau qui est peut-être plus difficile pour Cyril d'en parler. Elle joue entre nous. Ouais. C'est un exercice à la fois de charité entre nous et d'humilité, je reviens sur ce terme, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir qu'on est sans concession, c'est-à-dire que quand on présente un dossier, il peut être critiqué assez vertement par les autres membres, donc il y a une grande franchise, une grande honnêteté, donc humilité par rapport à ce qu'on fait. Et puis des expériences, une formation, un apprentissage de la manière de faire, de la vie de ces familles qui est absolument extraordinaire. Donc c'est assez bouleversant. Oui.
Cyril de Taillac, peut-être rappeler à nos auditeurs, notre émission touche bientôt à sa fin, qui peut peut-être bénéficier aussi et qui souhaiterait peut-être vous contacter pour, pour avoir ce lien, cette aide de votre part, de votre association, la Jarre de Sarepta. Qui est éligible à cette, si je puis dire.
Mon Dieu, que je n'aime pas ce mot.
J'imagine.
Je pense que toute famille qui vit un drame, quel qu'il soit, et qui met la situation de cette famille dans une détresse matérielle d'abord, puis morale ensuite, doit pouvoir nous contacter, soit par notre site, soit directement si elle nous connaît. Et je pense que le premier réflexe que l'on aura, c'est une écoute. Mmh. Une écoute bienveillante et une prière associée à cette écoute.
Mmh. Une écoute qui, comme vous le disiez en début d'émission, reste essentielle aussi dans votre travail à la Jarre de Sarepta. Et puis peut-être faites-vous aussi un appel aux éventuels bénévoles qui souhaiteraient aussi s'investir dans ce type d'action.
Je pense que toute aide est une bonne chose. Mmh. Je ne sais pas dimensionner aujourd'hui quel type d'aide on pourrait recevoir à nouveau. Ouais. Je crois que le plus important pour nous, à l'heure actuelle, est vraiment de pouvoir avoir les ressources qui nous permettent de discerner autour des projets de soutien qui nous sont proposés. Mmh. Et à un moment donné, tout en voulant rester à taille humaine, on aura du mal à pouvoir, entre guillemets, assumer cette tâche. Donc oui, les bonnes volontés seront à ce moment-là souhaitées.
Merci beaucoup Cyril de Taillac. Je rappelle que vous êtes fondateur de cette association formidable, la Jarre de Sarepta, cette charité de proximité effectivement qui est mise en place dans le diocèse de Versailles. Et merci à vous également, Alexis Gallet, membre actif de cette association. Et puis on se retrouve